Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Montreuil, en 1990. Montreuil vu en 1990. Le quartier a changé, le quartier est sympathique, même s'il y a eu des périodes difficiles, dit une habitante du quartier. D'autres, au contraire, le quartier a changé. C'était mieux avant. Le village gaulois du temps d'Astérix, la cité des Morillons à Montreuil, une jeunesse turbulente. Les gens s'isolent, les jeunes sont prisonniers de l'image de leur cité. La réputation d'une ville peut être aussi dure à supporter que celle d'une personne. C'était dans Les Nuits Magnétiques, dans la deuxième émission d'une série de quatre, Renaud Dalmar promenait tout simplement son micro dans la cité. Première diffusion sur France Culture le 31 janvier 1990.
Nuit magnétique, bonsoir. Je vis en cité. Nous reprenons ce soir le métro jusqu'à Mérimont-Montreuil et sautons dans l'autobus 122 qui nous dépose place Le Morillon, au cœur de sept cités du même nom. Le ton avec lequel je prononce sept n'est pas innocent. Il serait une façon radiophonique de marquer la cité Le Morillon. Ce soir, image de la cité.
C'est vrai qu'il y a une image qui se colle à la peau par rapport à la cité, en général. Je veux dire, les gens qui en parlent, les Morillons, oh là là, je vais pas garer ma voiture là-bas, avec mon poste dedans. Il y a des choses les plus folles, les rumeurs les plus folles qui traînent sur cette cité-là.
Ouais.
Bon, je veux dire, nous, on est à Montreuil, on est en France. Il y a eu quoi au Morillon ? C'est vrai, quelques gros délinquants. Mais bon, je veux dire, heureusement que les gens, ils habitent pas New York ou le Bronx. Hein. C'est vrai que cette image-là, à Montreuil, moi, me fait assez rire. Parce que je veux dire, on est tous des méchants, on est tous des gentils. Il n'y a qu'à nous prendre un par un, il n'y a plus de méchants. Hein. Bon, excepté quelques-uns. Toujours une exception à la règle. Mais bon, je pense que l'image, on se la donne à soi-même. Et bon, pour moi, mon image, je sais où j'en suis aujourd'hui. D'autres jeunes peuvent exactement faire pareil. Quand j'ai connu la cité, il n'y avait pas un seul rideau de fer aux commerçants. Maintenant, il y a rideau de fer, signal d'alarme et fusil dans les chambres. Bon, je veux dire, aujourd'hui, à l'image de la cité d'aujourd'hui, je ne pense pas. La plupart des jeunes travaillent, essayent de faire quelque chose, rentrent dans une nouvelle politique. Hein, je veux dire, ça a changé. Mais c'est vrai qu'à une certaine époque, ça a été vraiment... La réputation était un peu exagérée quand même, mais était valable.
T'as toujours habité dans la cité ?
Ouais. Quand je me souviens, ouais.
Toujours.
26 ans, la même cité. Comment je la présente ? Comme un village gaulois, comme le village gaulois. Comme le village gaulois du temps d'Astérix. Les années passent, le monde progresse. Les gens ne changent pas dans la cité. Ou très peu, ils évoluent très peu par rapport à l'extérieur. Les gens s'isolent volontairement.
Ah
oui. Ouais, ici on a la Brion et Pénard. On a le parc.
Voilà.
Je cherche en banlieue une cité qui a un parc à 20-30 mètres. Regarde, on n'a pas de centre commercial, on n'a pas de Zoulou, on n'a pas tout ce qui suit le centre commercial, on n'a pas. On n'a pas... Il n'y a que des gens qui se reposent, regarde. Il y a que des gens qui se passent, peinards, ils se reposent. Tout le monde se repose. Il n'y a pas de gens excités. Cité dortoir, c'est toujours calme, une cité dortoir.
Elle rigole pas, il s'est cassé la patte.
N'importe quoi.
Non, il s'est fait mal.
Bah oui.
Le cœur, normal, il court.
Il s'est tordu.
Eh, t'es chiant, Karine. Eh, t'es chiant.
T'es chiant, mais c'est pas un
si ça serait toi.
Et un jour, on s'est plus là, moi je.
Bon, moi, comme c'est 25 ans que j'y suis, donc je dis aux gens que c'est vrai que c'est une grande construction, qu'il y a beaucoup de bâtiments, qu'on a du mal pas à vivre dedans. C'est pas le problème, c'est plutôt que avec tous ces bâtiments qui nous entourent, on est mal positionné par rapport aux gens qui ont des pavillons. Voilà. Je leur représente que je préférerais vivre autre part, mais que la cité, c'est pas tout n'est pas négatif. Bon, voilà, ça aussi il faut le dire, que tout n'est pas négatif et puis que faut y vivre pour vraiment y voir ce qu'il y a, quoi. On peut en parler, il n'y a pas de problème, on en discute, mais faut y vivre. Une cité, faut y vivre vraiment pour voir tous les problèmes qu'il y a, tous les problèmes qu'on ressent, que nous, jeunes déjà, on ressent, parce que les parents, si c'est plus en cité, c'est pour avoir l'appartement, un lit, pour être au chaud, quoi. Nous, quand même, on sort, on voit ce qu'il y a autour de nous. Pour nous, la cité, c'est une vie.
Une voiture qui brûle, c'est vrai, ce n'est pas le Bronx. Surtout lorsqu'elle a brûlé il y a 10 ans. Seulement, les images se propagent très vite. Et les réputations restent longtemps. Le marquage au fer rouge des cités de banlieue, la stigmatisation, est l'un des points abordés le plus souvent par les sociologues travaillant sur ces quartiers. Cependant, la cité Le Morillon à Montreuil porte-t-elle comme un fardeau une image négative ? Ou doit-elle supporter le poids de l'image des cités de banlieue ?
La peur de ce chien, je m'appelle les
papes. Sauf l'autre, il est tombé sur la patte.
Christine, 19 ans.
Quand on parle vraiment de cité, je vois pas la nôtre. Parce que ça va, quoi. C'est pas la zone, quand même. C'est une cité, c'est tout. Mais ce qu'on en dit en général, je pense que ça, c'est valable pour d'autres cités. Des grands ensembles où c'est vraiment la. Ça ne concerne pas quand on parle la. Pas comme si on se croirait dans vraiment. On peut pas sortir, on peut rien faire, on va se faire agresser, c'est horrible, c'est pas. Je pense pas au Morillon. La preuve maintenant du souffle quartier, c'est vraiment du plus cité. Alors non. C'est pas un handicap.
Moi c'est Khalid.
Moi c'est Jamel.
Moi c'est Idriss.
J'ai toujours habité à Montreuil, mais sinon au Morillon ça fait 11 ans. Bon, on cite le nom déjà, Morillon.
Voilà.
Ouais, c'est connu, c'est une certaine réputation. Pour les jeunes c'est plutôt une bonne réputation, mais pour les flics, évidemment, c'est pas ça quand on dit on vient des Morillons. Cité, c'est toujours opposé
où on n'a pas intérêt à traîner, quoi.
Aux résidences, là, enfin aux villas, tout ça. Là. Nous, on la vit pas la violence, ça dépend. Ça dépend de qui. Nous, je pense pas, il n'y a pas de violence. Enfin, moi je la vois pas. Et ceux qui disent ça, c'est souvent ceux qui habitent en villa, enfin pas en résidence ou alors à Paris.
Qui traînent pas ici, mais qu'ils entendent parler. Ils entendent d'autres parler, bon, ils reprennent.
C'est juste des préjugés. Voilà. Bah, déjà, c'est la banlieue, alors.
Puis même les cités, ils ont une certaine réputation. Il n'y a pas que les Morillons.
Ouais, enfin, ça, c'est. Déjà, on est en banlieue. Encore les cités à Paris, c'est pas la même chose. C'est pas vécu pareil.
Elles ont quelle réputation, les cités là?
Ici?
Ouais, un peu partout, ok.
Cité, c'est. Un violent, sa drogue. À tout, hein.
Elle s'appelle Dalila, 15 ans, Fatima, 14 ans, et Nassera, 13 ans.
Mettons, quand je vais au Ruffin, au haut du parc, je dis à une copine, tu viens avec moi au Morillon, parce qu'elle habite là-bas.
Oh, non,
elle va me dire, non, je descends pas là-bas. Il trouve qu'il y a trop de voyous, bien c'est pas bien, quoi. C'est...
Ouais. Est-ce que c'est vrai?
Ouais, c'est vrai.
C'est une réputation qui
Ouais, c'est une réputation, qui... une réputation plutôt... mal vu.
Mes copines, elles sont étonnées. Ah bon, t'habites là-bas?
Ouais.
Après, je dis pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Après, elle fait, ah, c'est pas bien. Après, moi, je dis non, c'est bien. Je fais, elle fait, ouais, parce que t'habites là-bas, mais elle fait, on entend parler de ça. Hein. Elle est connue, notre cité.
Mais est-ce que des fois, vous évitez de le dire, que vous habitez au Morillon?
Non, non.
Bah non, pourquoi on le cacherait?
Ahmed, 26 ans.
Alors, là, j'ai donné des exemples par rapport à mes collègues. Comme ils ont su amuser au Morillon, j'ai les collègues qui disent, on ne voudrait jamais venir au Morillon, quoi. On va se faire agresser, ils vont nous voler notre sac, etc., etc. Moi, je leur dis, venez, franchement, venez, quoi. C'est vrai qu'à l'époque, dans les années 76 et un petit peu avant, c'est vrai que cette cité, faut les connaître pour fréquenter cette cité-là. C'est vrai qu'il faut les connaître au moins une ou deux personnes pour qu'on dise, tiens, je la connais, faut pas l'emmerder, laissez-la tranquille, quoi. Mais maintenant, n'importe qui peut y aller. Moi, je défie à qui que ce soit de passer à minuit, 2h du matin, sans problème, il leur arrive à rien. Je défie n'importe qui, hein. Que ce soit une jeune fille belle ou une mémé, sans problème. Je dis qu'ils peuvent. Mais c'est vrai que les gens ont une vue de la cité. Ils disent que c'est grave, quoi. Ils refusent des appartements. Hein. Des collègues à moi refusent des appartements au Morillon. Bon, pas comme au Morillon, hein, mais ils ont refusé des appartements au Morillon. Pour dire, je me demande ce qu'ils ont dans leur tête, quoi, la cité. Moi, je dis que c'est une cité de Montreuil. Dans laquelle on peut mieux s'intégrer. Les gens avec les jeunes. Des gens qui ne connaissent pas, qu'on peut mieux s'intégrer. Bon, c'est vrai que tout n'est pas positif. Hein. Il y a toujours des petits problèmes que tu peux connaître avec les jeunes. Bon, les jeunes qui sont un peu sous, des trucs comme ça. Tu peux toujours faire des mauvaises rencontres. Et c'est partout comme ça. Tu n'as pas besoin de vivre à Montreuil, dans une cité de 3e zone. Tu peux vivre aussi dans le 16e et faire des mauvaises rencontres. Hein. Voilà, c'est pour ça que beaucoup de ça. C'est vrai qu'on a une mauvaise image de la cité, mais je trouve que c'est une fausse image.
Her code, love struck, was my mode. Took a look, dropped my textbook, Jennifer. Oh, breakfast, broke it fast. She was in my English class. Asked for notes, rocked my boat, Jennifer. Oh, Jenny, lost her favorite penny. So I gave her a dollar. She kissed me and I hollered.
Madeleine a 78 ans et habite un pavillon en bordure de la cité.
Il y a eu un moment où la jeunesse était assez turbulente, plus que maintenant, je crois. Est-ce que c'était les premiers petits-enfants qui étaient arrivés à l'adolescence et qui ça faisait des bandes assez turbulentes? Mais moi, personnellement, je ne peux pas dire qu'il ne m'ait jamais gênée, parce que jamais je n'étais bousculée, ni Il y a eu une période où c'était un peu difficile parce qu'il faisait du patin à roulette, et... mais...
C'était seulement ça.
C'était seulement ça. Alors les commerçants se plaignaient, ils faisaient trop de bruit. Et puis après, il y a, paraît-il, eu des bandes, mais probablement qui se formaient le soir. Parce que moi, je vais faire mes courses soit le matin, soit en fin d'après-midi, mais je n'ai jamais eu un plainte de qui que ce soit.
Mais vous entendiez des choses sur cette cité
Oui, j'entendais chez les commerçants. Il y avait eu plusieurs cambriolages, notamment chez une dame qui vendait des vêtements. Et à chaque fois qu'elle renouvelait la collection, soit au printemps, soit en automne, elle se plaignait quelques heures presque après la livraison d'être cambriolée pendant la nuit. Fallait vraiment peut-être y vivre pour s'en rendre compte. Quand on ne faisait qu'y passer, comme moi, c'était pas évident. Même maintenant, il y a bien des gens qui pensent que le fait d'habiter à Montreuil, c'est prendre des gros risques. Je m'en suis jamais rendu compte. Moi, je trouve que c'est sympathique. C'est un mélange. Maintenant, il y a des personnes très bien habillées, d'autres plus modestes. Mais je trouve que c'est bien un échantillonnage de toute une société. Je trouve ça assez sympathique. Et je ne vois pas pourquoi le mot « cité », je crois que ça donne souvent une idée fausse. Comment s'appelait cette grande cité, la première qui s'est construite en banlieue, où les jeunes, vraiment, où il n'y avait aucune distraction pour les jeunes et qui se sont réunis en bande et puis qui ont fait quelques bêtises. Et après, toutes les cités ont bénéficié de cette réputation. Alors que la cité des Morillons n'est pas une très grande cité. Je crois que ça doit être différent de ces cités dortoirs. Parce que la place Le Morillon, ça fait plus village que grande cité, je trouve.
Annick Benoît, enseignante au collège du quartier.
Tout ce que je connaissais de la banlieue parisienne, c'était ce qu'on disait dans les émissions sur la banlieue parisienne. Mais j'en savais pas davantage.
C'est-à-dire
La difficulté pour les professeurs de faire un travail pour lequel ils se sentaient formés. Par exemple, dans mon cas, d'enseigner la littérature et pas forcément l'orthographe en classe de 3e. Mais non. Et les a priori que j'avais, c'est des a priori qui venaient de moi et pas de ce que des personnes qui connaissaient Montreuil auraient pu me dire. J'ai travaillé les années précédentes dans le Pas-de-Calais, dans deux types de collèges différents. Un collège d'une ZUP, donc comparable à celui-ci, et un collège de centre-ville. Et c'est très différent. Et je dois dire que pour un professeur qui aime enseigner le français et éventuellement la littérature, c'est plus facile à faire dans un collège de centre-ville que dans une ZUP. Quand je suis venue donc la première fois... Avant la rentrée des classes, voir le collège, repérer les lieux, repérer les bâtiments, je dois dire que j'ai eu une impression très négative. J'ai eu l'impression qu'à nouveau, je travaillerais dans un milieu particulièrement dur, particulièrement défavorisé.
Vous imaginiez quoi, un petit peu
J'avais très peur, par exemple, de mes réactions face à une population émigrée. Parce que dans le Pas-de-Calais, il y a beaucoup d'enfants d'origine polonaise, mais qui sont au moins de la 3e génération. Ils ont donc des noms à consonance polonaise, mais ils sont français vraiment à 100%. Et là, je me suis dit que je ne savais pas du tout comment j'allais réagir vis-à-vis d'enfants d'origine maghrébine ou yougoslave ou d'autres origines.
Est-ce que... Vous connaissez un petit peu le quartier maintenant, est-ce que vous l'avez repéré? Est-ce que vous connaissez les différents groupes d'habitation?
Pas tellement, non. Non, pas tellement. Je me suis un petit peu promenée, surtout la première année, autour du collège. J'ai vu qu'il y avait finalement des sortes d'immeubles assez différents, plutôt des tours, plutôt des petits immeubles à 4-5 étages. J'ai vu qu'il y avait quelques maisons individuelles, en particulier dans la rue des Ruffins. Donc j'ai repéré un certain nombre de choses, mais je dois dire que non, je ne connais, au bout de 5 ans, je ne connais pas beaucoup le quartier.
Quelle image de la cité Le Morillon avez-vous à travers vos élèves ?
J'ai l'impression d'un univers qui est un peu refermé sur lui-même, dans ce sens que j'ai toujours le sentiment que, curieux, qu'à la fois tout le monde connaît tout le monde, que les élèves connaissent bien les rues et savent à peu près se débrouiller dans leur quartier. Mais en même temps, il est très fréquent que, quand un élève est absent, personne ne soit capable de dire où il habite, ce qui me surprend toujours. Et surtout, je remarque presque tous les ans qu'un grand nombre d'élèves ne sont pas sortis de la cité, par exemple, pour aller à Paris. Je me rappelle que la première année, j'ai voulu faire une sortie et j'avais fait un itinéraire dans le métro. Et j'ai découvert que plusieurs élèves, je ne dis pas la moitié de la classe, mais un bon cinquième de la classe n'avait jamais pris le métro dans Paris.
I woke up this morning, got ready to roll. Put on my green bomber, it was freezing cold. Applied long johns with Adidas not matching. I called up Jim Master cause I knew he was scratching. Jay to the telly music, loud as hell. He said,
hold up, run,
ding-dong.
It's the bell.
Jay to the door as he leaves the cut. For his eyes a surprise.
DMC, what's up? I need a little help, Jay, I got a little problem. A guy like yourself, maybe you can help me solve him. I only want to know why this happens all the time. Everywhere I go, I start to rap and rhyme. I rock him in the day.
Yeah, you rock him every night.
I rock him when I left so deaf I knew something was wrong.
Right.
I rhyme when I'm sleeping. I rhyme when I'm awake. When I was 9, I said I rhyme by putting candles on my cake. I just came from the bank.
You said a rhyme.
A rap so funny. A song about the line so long they all gave me their money. That's why I came to you. You're my friend.
Yes, that is true.
Said maybe Jay knows what to say. He'll tell me what to do.
Yo, you go get Joe and all the rhymes you made. And we'll go to the bank.
And we can all get paid.
Cruising down the block in the 66 old. Girls are on the jock like the ride was a roll. Feeling kinda great, got change for the toll. Suckers gotta wait, that's your fate, poor soul. Heard you on the records and I heard you on the tapes. Stop, switch the conversation over to grapes. Because you're not bussin' none, so stop fussin' son. You're not down with Rush, they call us Russ and Run. Since that's the company, you won't be chumpin' me. Here's a man, ask that fan.
Run be bumpin' me.
Je vis en cité, nuit magnétique. Ce soir, image de la cité.
C'est vrai que quand tu dis que tu habites dans une cité comme Le Morillon et ils disent « Ah, Le Morillon, il y a des voyous, ils te racontent une histoire qui s'est passée il y a 10 ans de ça, oui, un tel s'est fait agresser, un tel s'est fait violer ou quoi. » Mais ils disent des trucs, ça fait 10 ans que ça fait, c'est vieux quoi, je veux dire, à la limite, il ne faut même plus en parler. Mais c'est vrai que ça fait un poids parce que tu te dis, pour le boulot même, tu as peur. Tu te dis, ils savent que je suis d'une cité et ils vont essayer de te griller quoi, vis-à-vis des collègues ou des trucs comme ça. Bon, moi, c'est vrai, personnellement, hein, j'ai eu un problème de ce genre-là. C'était quand je commençais à rentrer en bibliothèque. Ils m'ont dit, Oh, lui, il vit au Morillon, ses frères, c'est ça. Tout de suite, une mauvaise image, quoi. Alors, bon, il y a d'autres collègues qui disent, mais je connais Ahmed depuis longtemps, faut pas dire des trucs comme ça. C'est vrai qu'il y a des trucs. Et il faut pas parler sur les gens. Il y a des mecs qui sortent des cités, ça devient des cadres supérieurs, comme ils peuvent sortir, comme ça peut devenir des zonards de première zone, et puis c'est tout, quoi. Mais c'est vrai que quand tu dis qu'il y a dans une cité comme le Morillon ou le Bel Air, à mon avis, et Lanoux, entre autres la Boissière, c'est vrai que t'as de mauvaises images. Personnel, déjà, tu dis, vont dire, bon, celui-là. Encore en plus, c'était étranger, hein. Maintenant, ça, c'est un truc en plus. C'était pas français, t'habites dans une cité, je crois que c'est ce qu'il y a de pire.
Quand on parle cité, on parle jeune, on parle immigré, on parle délinquance, on parle drogue, on parle alcoolisme, on parle tout. Mais bon. Quand je suis chez quelqu'un, je suis un copain à moi, qui habite un F2 ou un F3, je veux dire, je me sens dans une cage. Bon. On va me dire, ils se donnent peut-être pas les moyens non plus de faire quelque chose. Mais bon, se donner les moyens, encore faut-il les avoir. Qu'on est immigré, qu'on a des parents qui parlent à peine le français, qui ne l'écrivent pas, que soi-même on n'a pas eu une bonne scolarité, qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie ? Et là, bon, c'est un autre problème. Mais je veux dire, c'est vrai que par rapport à l'image des autres cités, de la région parisienne de France et de Navarre, et ben c'est vrai que dès qu'on parle cité, on parle d'une certaine image et d'une mauvaise image en général.
Michel Didier est directeur de l'association Rue et Cité, club de prévention. 10 ans de travail d'éducateur sur la cité Le Morillon lui ont permis d'appréhender les problèmes d'image d'un quartier.
L'image des Morillons, c'est pas les 4000, c'est pas des cités comme ça qui sont très ciblées médiatiquement, les Minguettes à Vénissieux, etc. Tu vois, elle n'est pas dans cette dimension-là. Même au niveau de la représentation qu'ont les gens du quartier, c'est pas ça. Je crois aussi que là, en ce moment, c'est vrai que les Morillons, ça a pas une mauvaise réputation. Je dirais qu'il y a 10 ans, moi c'est il y a 10 ans que j'ai démarré sur le quartier, ça avait une image de cité plutôt dure. Bon, 5 ans avant, c'était pas les Morillons qui étaient ciblés, c'était le Bel Air ou c'était Jean Moulin. Bon, en ce moment, c'est un autre quartier qui a plutôt la mauvaise réputation, et dans 5 ans, ce sera un autre. Donc ça sont des choses qui changent en fonction des périodes. Ceci dit, c'est vrai qu'il peut y avoir un poids de l'image. Je l'ai moins ressenti chez les interlocuteurs des jeunes que dans la tête des jeunes eux-mêmes. Je veux dire, à la limite, ils se faisaient plus eux-mêmes une représentation négative de leur quartier. Où, par exemple, ils disaient toujours « si je dis que je viens des Morillons, je vais pas être pris ». Alors qu'en fait, c'est pas ça. Le patron ou l'artisan qui veut recruter un jeune, il va d'abord sentir à quel genre de jeune il a affaire, quoi. C'est ça qui va compter pour lui. C'est pas savoir exactement où il habite, dans quelle cage d'escalier. Ça peut arriver, mais à mon avis, c'est plus les jeunes qui sont prisonniers dans leur tête, qui ont une représentation d'eux-mêmes assez négative, quoi. C'est le sentiment d'appartenir à un quartier défavorisé, ça renvoie, je crois, aussi à toute l'image des cités de banlieue, qui est diffusée sur un plan comme ça très général. Enfin bon, c'est pas bien vu d'habiter une cité de banlieue. Tout de suite, il y a quand même, bon, t'es quand même catalogué comme étant jeune à problème, sûrement délinquant, sûrement menaçant. Dans tous les cas, des jeunes dont il faut se méfier et qui ont assez peu de chance dans la vie, quoi. Hein, bon, ça pèse très fortement. Ça pèse dans le sens où, effectivement, j'ai le sentiment que quelquefois, les gens se sentent un peu prisonniers de l'image qu'ils se font ou de l'image qu'ils croient que les autres se font du quartier où ils habitent. Alors, du coup, ils vont pas s'autoriser des comportements qui trancheraient trop avec la conception qu'on se fait d'un jeune de banlieue ou d'un jeune de cité. Je crois qu'effectivement, ça a un poids, l'image. Plus la cité est stigmatisée, plus ça pèse sur le devenir des gens. C'est évident. Par contre, je crois qu'il y a toujours une possibilité pour, je veux dire, pour l'individu, de se situer autrement. C'est encore ce qui est le plus intéressant à faire, c'est qu'au niveau collectif, qu'il y ait une transformation de l'image du quartier. Et que les habitants, se prennent un petit peu en charge eux-mêmes pour essayer de faire avancer ou de faire évoluer l'image de leur quartier. Alors ça peut être sous forme d'opérations ponctuelles, ça peut être à l'occasion d'une réhabilitation quand elle est bien faite. Ça peut jouer. Je crois que c'est important la façon dont les gens s'identifient à leur quartier. Est-ce qu'ils ont envie de s'identifier ou pas ? Plus ils ont envie de s'y identifier, plus intéressant. Et j'allais dire, même dans le groupe des jeunes, enfin, je crois qu'il y a aussi deux types de jeunes. Il y a ce qu'on pourrait appeler les jeunes de la place, c'est-à-dire qui habitent vraiment leur quartier, qui s'investissent complètement dans leur quartier, qui collent un peu au mur. Et puis il y en a qui vivent pas du tout dans la cité, qui rentrent pour dormir, mais qui sont la plupart du temps à l'extérieur, dont les loisirs se passent pas au milieu de la cité et dont les relations privilégiées sont pas avec les jeunes de la cité. Donc le poids de l'image sera pas du tout le même. Ils seront même pas porteurs de l'image du quartier. Je crois qu'ils sont partagés entre le côté petit village. On est bien ici, on est entre nous, personne vient nous emmerder. Et puis le côté quand même, on habitait un quartier un peu pourri, dans la zone, etc. Bon. Donc ils vont passer assez facilement de l'un à l'autre, je crois. Ceci dit, je crois qu'ils ont raison. Ils ont raison de dire qu'ils pensent habiter un quartier sympa. Et en tout cas, ils n'ont pas du tout envie qu'on leur renvoie une image négative du quartier où ils habitent.
Quand on parle d'une cité quelconque, n'importe laquelle, hein. Au Morillon, c'est normal que ça répercute l'image. C'est obligatoire, c'est une cité, et une cité ressemble à une autre cité, il faut dire ce qu'il y a. Hein. Il n'y a pas une cité comme ça, qu'on peut différencier. Une cité, c'est une cité déjà. On peut dire HLM construit différents étages, cage escalier cassé, etc., etc. Bon, une cité qu'on peut différencier, c'est une cité privée. Bien entretenu, je dirais même pas cité privée, je dirais bâtiment privé, parce que les Morillons, c'est une cité privée. Donc, Marc, elle est pas horrible hein, par rapport à d'autres cités. Franchement, je pense que les Morillons, déjà, c'est une belle cité dans Montreuil. C'est une belle cité. Je sais pas parce que j'y vis. Hein. J'ai visité d'autres cités comme Lanoux, qui est vraiment une cité craignos. Hein. La Boissière, il y a des cités. Je crois que ça dépend de l'ampleur de la cité aussi, de la grandeur de la cité. Déjà.
J'avais trop peur parce qu'ils disaient les cités des HLM, c'est la cité des drogués, c'est la cité des voleurs, c'est la cité des jeunes délinquants. C'est ça. Ils disaient souvent ça, les gens. J'avais peur, la vérité. Je vous dis la vérité, mais quand on est chez nous, je sais pas, moi, je me sens bien.
Ils mentent pas, on peut pas dire qu'ils mentent. C'est vrai qu'il se passe beaucoup de trucs dans les cités. C'est vrai que... trafic, quoi que ce soit, je veux dire que ça aille de drogue, de matériel, IFI, tu peux trouver ce que tu veux dans une cité, c'est vrai, faut pas mentir, c'est la vie de cité, bon maintenant, c'est ça, ils se démerdent les gens, ils peuvent acheter un truc beaucoup moins cher que dans le magasin, on sait qu'il y a du vol, on sait qu'il y a un trafic, le seul truc qu'on peut reprocher c'est le trafic de drogue, c'est vrai que si on pouvait l'éliminer de la cité, ça serait dix fois mieux. Maintenant qu'il soit un trafic de wifi ou trafic quelconque de petits blousons de cuir ou de petits pantalons moins chers, mais les gens ça les arrange. Et t'as pas besoin d'être immigré ou quoi que ce soit. Hein. Même les Français, je veux dire, de la cité achètent. Ils disent bon, tant qu'à faire, je paye moins cher. Moi je l'ai pas volé, je l'ai acheté. Bon, c'est vrai que c'est du vol quand même. Hein. On dit qu'un truc volé que t'achètes, c'est pareil. Hein. Mais c'est vrai que ce qu'on dit dans les journaux, c'est pas faux quoi. Bon, des fois, ils grossissent. Hein. Des fois, ils t'inventent des trucs comme quoi il y a des équipes qui sont créées, c'est des gros voleurs, ils sont des équipes de 10, c'est des trucs organisés. Alors franchement, dans une cité, si on dit un truc qui est organisé, un gang organisé, là, faut pas y croire. Vraiment, on peut dire que c'est à côté de la plaque. Parce que j'ai rarement vu des gangs dans une cité. Les mecs, quand ils font la connerie, ils sont à deux ou trois. Et encore, celui qui va voler, c'est toujours pas les mêmes. C'est jamais des équipes qui se connaissent. Des fois, les mecs, ils vont déconner parce qu'ils ont besoin d'argent. Si c'est un toxicomane, faut qu'ils se droguent. Mais c'est que des petits délits, quoi. Il n'y a jamais de gros délits. Hein.
dans beaucoup, je dis pas dans toutes les banlieues, mais dans énormément de banlieues, on sent quand même une création rapide, sans vie, une absence de vie, et se promener dans la banlieue un dimanche soir, hein, comme ça m'est arrivé récemment, c'est sinistre. On a des grands HLM, des grands bâtiments qui sont tous gris ou sans couleur, sans rien, sans aucune vie, sans aucune beauté artistique, et personne dehors, et des grandes artères avec l'autoroute qui passe à 500 mètres, puis voilà. Donc c'est vrai que ça change par rapport aux petites rues qu'on peut trouver dans le 5e arrondissement, dans le quartier latin ou des choses comme ça. Le type de cité de banlieue, pour moi, la caricature, ce serait Sarcelles. C'est-à-dire vraiment les cages à lapins, quoi.
Stéphane a 17 ans, il est étudiant et habite le 5e arrondissement de Paris.
Il y a quand même un problème quand on regarde ces banlieues, c'est ça, c'est cette absence d'histoire. Moi, je crois que à mon avis, c'est quand même des lieux inhumains. Je suis un peu sec, mais c'est moi, je sens vraiment, j'ai une aversion totale. Quand je vais en banlieue, c'est... Yes, the rhythm, the rebel, without a pause, I'm lowering my level. The hard rhymer, where you never been, I'm in. You want styling, you know it's time again. D, the enemy, telling you to hear it. They praise the music, it's time to play the lyrics. Some say no to the album, the show. Bum rush the sound, I made a year ago. I guess you know, you guess I'm just a radical. Not on sabbatical, yes, to make it critical. The only part of your body, should be part of it too. Never play me on the mix. They just okay me now, knowing and growing. When the clock in my zone is known, sneaking and taking everything that the brother owns. My calling card, recorded and ordered. Supporter of Chess and Mart, loud and proud. Kicking live, next poet supreme. Loop for true, bazooka for scheme.
Alors, quel type de vie tu imagines dans ces cités, puisque tu dis que tu connais pas bien?
Bah, imaginer comme ça, je dirais que. Tout se passe ou bien dans la rue. C'est pas imaginer tellement, c'est plutôt voir des représentations où tout se passe en bas de la cour des HLM, où les jeunes, ce qu'on appelle les jeunes, se réunissent ensemble et discutent, et puis se deal, et puis font une série de trucs comme ça. Et puis un jour, il y a un type qui en a marre parce qu'il entend la musique en bas, il entend du rap, et puis il sort son fusil, et puis il tue un des immigrés, parce que c'est généralement des immigrés en plus qui font ça. Voilà, quoi, une vie sauvage. Le problème du banlieue, c'est de ne pas avoir un cadre attrayant, et sans cadre attrayant, ça... Il y aura toujours des tensions entre chacun restera dans un milieu social, culturel, sans vouloir aller dans les autres. Et s'il y a des heures ratios dans les banlieues, c'est bien parce qu'on n'a pas, réussi à créer une communauté et que chacun s'est replié sur son petit cocon, dans son petit appartement, qu'il essaye de faire le plus confortable possible, quand à l'extérieur, il n'y a rien de... On sait qu'à l'extérieur, il n'y a rien de beau, sinon des buildings et puis des autoroutes.
Comment sont venues ces images à toi?
Ces images sont venues quand même d'abord de quelques séjours quand même en banlieue. Ça m'est déjà arrivé d'aller en banlieue, mais aussi sans doute par des... C'est vrai, par les médias, par une information qui nous montre, pas par des informations dans les journaux, à la télévision, ce qui nous montre toujours, c'est quand même, la banlieue, c'est quand même un problème de la vie quotidienne, donc c'est un problème dont on est toujours informé et qui donc nous, forcément, à un moment, nous touche et nous concerne, parce que, ne serait-ce parce que moi ou comme d'autres, je suis à l'intérieur de la vie parisienne et je sais qu'à l'extérieur, il y a des banlieues. C'est toujours les médias tels qu'ils le traitent, c'est toujours de la même façon, c'est-à-dire montrer les problèmes des banlieues, montrer les problèmes racistes qu'il y a en banlieue, les problèmes de l'éducation, de l'enseignement dans les banlieues. C'est toujours, de toute façon, les médias tels qu'ils montrent les banlieues, c'était, à la limite, c'est toujours des problèmes. Ou bien un jour, on met un bon point à une banlieue parce qu'il y a une association qui s'est créée et qui essaye de faire revivre les banlieues, leur donner une âme humaine.
She watch Channel Zero. Zero.
Yo, baby, can't you see that's nonsense you watching? Look, don't nobody look like that. Nobody even look like that. You know what I'm saying? You watching garbage. Garbage, straight up garbage. Yo, run you back up from the TV. Read a book or something. Read about yourself. Learn your culture. You know what I'm saying? Yo, let me tell you a little something. You're blind, baby. You're blind from the fact of who you are because you're watching that garbage. You understand what I'm saying? Garbage. Live up your garbage. You're blind, baby.
Les médias sont souvent mis en cause comme véhicule de cette image négative. Alain Le Gougec, journaliste à France Inter.
Avant d'examiner le tissu social des banlieues qu'on présente généralement par des HLM, des tours infernales, il faut d'abord examiner le tissu social des journalistes. Bon. Moins de 5% des journalistes sont issus de catégories sociales défavorisées, plutôt moyennes, c'est-à-dire des journalistes qui ont pour parents des employés, des ouvriers, des agriculteurs, mais rarement des cadres. Les 95% qui restent viennent de familles peut-être pas aisées, mais plutôt bourgeoises, de familles de cadres, de maîtrises, cadres supérieurs, journalistes souvent, ça arrive. Donc leur regard sur les banlieues n'est pas un regard très objectif, évidemment. Ce qui fait qu'on véhicule souvent des stéréotypes. La banlieue, c'est bien sûr la délinquance. La banlieue, c'est l'étranger. On oublie surtout une chose, c'est que les gens qui vivent dans les banlieues sont là. Parce qu'ils n'ont pas d'autre alternative, que c'est leur cadre de vie habituel, qu'ils font tout pour s'y rendre la vie plutôt facile et heureuse, on pense forcément que ce sont des victimes. On les pose en victimes. Donc, vous avez pu le constater comme moi, je ne veux pas bien sûr m'en prendre à mes confrères et m'en prendre à moi-même, mais lorsqu'on parle d'une banlieue, on imagine surtout des appartements ou des escaliers sales, des caves où il se passe des choses pas très très catholiques, les vieux fantasmes ressurgissent, on pense viol, on pense mobilette trafiquée, on pense à toutes ces choses-là, et on pense forcément que tous les gens qui vivent dans ces banlieues vivent dans une sorte d'immense ghetto. On parle de cités dortoirs, ce sont des images qui frappent quand même. Bon, de gens qui sont contraints d'y vivre, contraints d'y dormir, mais qui n'ont vraiment pas d'autre choix, alors que ça peut constituer un choix. Mais on ne peut pas imaginer que les gens qui vivent là-dedans peuvent avoir des relations conviviales, ils peuvent y être heureux, ce qui arrive aussi. Le rôle du journaliste, c'est aussi d'utiliser des images qui frappent, de façon à pouvoir parler plus rapidement aux gens. Ça l'oblige à traiter l'information de manière un petit peu trop raccourcie, elliptique. Alors évidemment, ça peut avoir un rôle négatif, parce qu'on peut avoir tendance à regarder un banlieusard. Déjà, le mot banlieusard, c'est pas un mot très joli, un mot qui se termine en art, comme ça. C'est un son, c'est une connotation particulière. Bon. Donc on va le regarder, il sera forcément suspect de quelque chose, ce sera pas quelqu'un forcément très bien, bon, ça peut arriver, mais ça peut aussi avoir un effet très positif, c'est que ça peut interpeller les pouvoirs publics, ça peut interpeller les hommes politiques, qui vont se dire, c'est vrai que les gens qui vivent dans ces banlieues, mon Dieu, ils sont pas très heureux, on va peut-être essayer de faire quelque chose. Alors on est passé par tous les stades de la rénovation, on a parlé de rénovation Ripollin, ça aussi c'est une... J'ai rien contre Ripollin, évidemment, je tiens à le préciser, mais c'est une image de journaliste, un petit peu raccourcie, un petit peu elliptique, mais qui dit bien ce qu'elle veut dire, un coup de peinture sur la façade, et puis finalement, ça permet d'oublier un peu, au moins pendant quelques temps, ce qu'il y a à l'intérieur. Mais on a pu engager aussi, au fil du temps, une réflexion, grâce à des architectes comme Roland Castro, des gens comme ça, qui ont dit, bah oui, les banlieues existent, il y a en effet des cités HLM dans les banlieues, il y a des tours, et il y a des gens qui vivent dedans. Et nous, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. On va peut-être essayer soit d'y changer quelque chose, soit de modifier le cadre de vie, soit carrément détruire ces bars comme ça s'est passé à la Courneuve et tenter d'y faire autre chose. Donc c'est aussi ça, l'un des effets de cette image, de ce stéréotype qui est véhiculé sans cesse par les médias. Pour raccourcir à mon tour un petit peu la vision qu'on a des choses quand on parle des banlieues et qu'on parle des cités qui s'y trouvent souvent, c'est qu'on pense d'abord fait divers. banlieue égale fait divers. C'est l'image la plus négative qui puisse coller aux banlieues. Je pense, je n'ai pas les chiffres en tête évidemment, mais je pense qu'il n'y a pas plus de faits divers dans les banlieues qu'il y en a dans le centre des villes. C'est finalement dans le choix du fait divers, il y a le fait divers clean, luxe, hein, de grand luxe. On le garde pour le centre, ça, pour Paris intramuros. Et puis, quand on veut du sordide, on va le chercher dans banlieue. Banlieue égale fait divers sordide. À mon avis, les journalistes prouveront qu'ils commencent à comprendre les banlieues le jour où ils cesseront de lever le petit doigt dès qu'on évoque une sombre affaire d'adolescent découvert dans le local à poubelle d'un logement HLM, d'un immeuble d'HLM. On a encore un petit peu trop tendance à réagir de cette façon-là. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse dans ces endroits-là, alors qu'il se passe autre chose, ce qui nous intéresse, c'est ça. Bon. Et pour l'instant, la réflexion ne nous intéresse pas trop, en fait. On a tendance à considérer que les colloques sont ennuyeux. Il y en a, des colloques. Il y a des gens dans la grande banlieue parisienne qui travaillent beaucoup dessus. Des hommes politiques qui ne sont pas suspects forcément d'arrière-pensées électoralistes, qui sont parfois des gens sincères, de tous bords d'ailleurs, et qui réfléchissent, qui se penchent là-dessus. Et les journalistes, et c'est peut-être leur tort actuellement, parce qu'ils pensent que ça n'est pas très médiatique, sont pas très à l'écoute de cette réflexion. Ils se disent, bon, d'accord, ils réfléchissent, mais qu'est-ce qui nous emmerde? Laissons-les réfléchir en paix et on attendra les actes. Bon. C'est finalement la différence qu'il y a entre la réflexion et les faits, c'est qu'on a tendance un petit peu trop souvent à oublier la réflexion et à s'en tenir aux faits. Et les faits, finalement, vont venir de façon, j'allais dire insidieuse, ça n'est pas le bon mot, mais ça va venir au fur et à mesure du temps, il va falloir du temps pour ça. Et on pourra pas, il va pas y avoir un effet miraculeux. Hein. Je comprends finalement ce qui peut guider les pas d'un élu local qui dit, tiens, là j'ai une barre, un building, et je vais essayer de médiatiser ça à mort, comme ça on va peut-être parler de ce genre de truc, et qui va organiser un spectacle avec son et lumière, comme ça s'est produit il y a quelques temps dans l'une des banlieues parisiennes. Bon, on a vu ça, c'était en direct sur Antenne 2, je crois, moi je l'ai vu comme beaucoup de gens. C'est vrai que c'est médiatique, c'est très médiatique, mais ça masque un petit peu vraiment le fond de la réflexion, une réflexion qui nous concerne tous, et quand je dis qui nous concerne tous, je ne parle pas uniquement des journalistes, mais vraiment à laquelle tout le monde pourrait participer. On attend la fin, et la fin, avant de la voir, finalement, il va couler de l'eau sous les ponts.
Une réflexion plus individuelle sur le métier de journaliste, est-ce que vous pensez que le journaliste doit se poser la question avant des conséquences que peut avoir, par exemple, un interview d'un jeune en difficulté?
Il devrait avoir ça à l'esprit constamment, en permanence. Tout va toujours plus vite. Reste-t-il une place pour la réflexion? J'aurais tendance à dire non. Bon, on réfléchit, mais on réfléchit tellement vite. On va réfléchir au choix de l'information. On va réfléchir à la place que l'information occupera dans un journal, dans un magazine, sur une antenne globalement. Mais ça va très très vite. Savoir, essayer de calculer la conséquence, d'évaluer la conséquence de nos actes, ça c'est une autre paire de manches. Et finalement, c'est ce qui nous manque. On vit dans une époque hyper médiatisée où les inculpés deviennent des coupables. C'est quand même très grave. Et le jour où on pourra se dire, on a quand même une trop grosse responsabilité, il faut qu'on change notre fusil d'épaule, il faut qu'on parle moins vite. Eh bien ce jour-là, on refera l'ensemble des médias. Franchement, je crois que ça reste de l'utopie, parce qu'il faudra qu'enfin les journalistes prennent leur temps.
Alors aujourd'hui que l'image des cités de banlieue existe, quel rôle pourraient jouer les journalistes?
L'intérêt, ce serait peut-être de les associer à la réflexion. C'est-à-dire que plutôt que de leur demander d'être spectateurs, d'être des observateurs, et de venir comme des cheveux sur la soupe à la fin d'un colloque pour interviewer deux ou trois techniciens de la banlieue, qui vont dire on est arrivé à telle conclusion, finalement notre réflexion avance. Bon, on va dire ça manque de concret. Hein. Il serait peut-être bon de les y associer. C'est une possibilité. Trouver des grands noms. Parce que ça peut se médiatiser, ça aussi. C'est-à-dire que les gens qui réfléchissent actuellement sur l'avenir des banlieues peuvent se dire, si on ne parle pas assez de notre réflexion, et des moyens de parvenir à changer les choses. Il faudrait peut-être médiatiser ça. En associant le journaliste et son entreprise à cette réflexion, peut-être y aura-t-il quelque chose à faire. Parce que pour nous, potentiellement, Il y a des auditeurs, là. Les gens qui vivent dans les banlieues nous intéressent, forcément. Et on va commencer, la calculette va fonctionner. On va se dire, c'est vrai que peut-être, on va faire peut-être une radio un peu moins élitiste. On va peut-être, et puis on va peut-être pouvoir attaquer les concurrents sur leur terrain aussi, qui vont donner un petit peu plus dans le popu, comme on dit, hein, dans le populaire. Ben nous, on va faire du populaire sans démagogie, tiens, on va y aller. Et puis, après tout, hein, on est aussi service public. Pourquoi pas.
We love, right?
The wrong! I believe in free everything! Freedom for all male chauvinists! Big domination!
Honestly, don't you understand?
Excuse me, you put your hand on me.
Charlie Victor 27 here. I'm receiving you. Over.
Charlie Victor.
We got Charlie Victor at first. Check it.
Charlie Victor, where are you?
Charlie Victor here. I'm approaching London Airport.
What route are you on?
I'm coming from Calcutta.
Calcutta. They're all taking the mickey. It's bad. You haven't got any control over yourself.
François Dubé, dans son livre « La galère, jeune en survie », dit « La mauvaise réputation des cités exclut bien plus que la misère. »
Mais je crois qu'il a raison. Encore que la misère exclut beaucoup. Hein. Mais c'est vrai que la réputation, ou surtout la mauvaise réputation d'un quartier, ça pèse énormément sur les gens, au point que les gens eux-mêmes deviennent porteurs de cette image et ont eux-mêmes une mauvaise représentation de ce qu'ils sont, du quartier où ils habitent. Et ça c'est assez grave, parce que ça rend les gens prisonniers, quoi. Il y a des gens qui disent d'ailleurs que, bon, je ne partage pas tout à fait leur avis, mais qu'il suffirait de changer l'image de marque des 4000 à la Courneuve pour qu'il y ait moins de problèmes et que les gens aillent mieux. Alors je crois que c'est vrai d'un certain point de vue, c'est pas vrai d'un autre, c'est-à-dire que c'est un peu rapide. Et tant qu'on n'a pas non plus, qu'on s'est pas non plus attaqué aux vrais problèmes et aux raisons qui font que des gens, premièrement, sont dans la misère, deuxièmement, sont tous ensemble dans le même endroit, et troisièmement, qu'ils ont assez peu de moyens, en règle générale, de pouvoir s'en sortir, bon, on n'aura pas non plus résolu grand chose. Donc il faut aussi être prudent sur l'aspect, j'allais dire, image. Ça a un poids, mais c'est pas la seule chose qui fait que, qu'un quartier va mal ou que des gens se sentent pas bien, hein.
Est-ce que tu crois qu'il existe une stigmatisation également individuelle des jeunes de ces quartiers ?
Alors ça, c'est un problème compliqué. Parce que moi, j'ai le sentiment qu'il faut à la fois informer les gens. C'est-à-dire que trop souvent, justement, les gens ne sont pas assez informés de ce que sont vraiment les jeunes. Quelle est la vie des jeunes ? Comment les jeunes voient la vie ? Qu'est-ce qu'ils ont à dire ? De la société dans laquelle ils vivent, de leurs espoirs, de leurs perspectives d'avenir, etc. Parce qu'ils ont des choses à dire, ils ont des choses fort intéressantes, mais qui ne sont pas entendues et qui ne sont même pas connues. Donc c'est à la fois important d'informer les gens, et en même temps, ce qui est important, c'est la façon dont on va faire cette information. Et c'est là où, j'allais dire, ça, c'est tout le problème du travail des médias, c'est comment informer sans réduire la personne à un aspect seulement, et souvent malheureusement l'aspect qui sera le plus porteur médiatiquement, alors pour des jeunes en difficulté ça va être l'aspect délinquant, et là les dangers sont grands de stigmatiser les jeunes, et donc de renforcer leur sentiment d'identification à un rôle négatif, quoi, Bon, c'est ça, il y a des exemples nombreux là-dessus. À l'époque des Minguettes, les fameux rodéos de voitures. Je veux dire, plus les journalistes sont venus aux Minguettes interviewer les jeunes à propos des rodéos de voitures, plus il y a eu de rodéos de voitures, plus il y a eu de voitures qui ont brûlé. Parce que là, ils avaient trouvé. On parlait enfin d'eux. J'allais dire, quelle que soit la façon d'en parler, ce qui est important, c'est d'en parler. Alors, parler d'eux, c'était parler des rodéos de voitures et des voitures qui brûlaient, c'était ça dont ils parlaient. Et ça devenait leur image de marque. Ce qui me paraît important, c'est quand on parle des jeunes, et notamment des jeunes cités de banlieue, etc., c'est qu'on fasse bien attention à prendre en compte l'ensemble de la dimension de la personne ou du groupe, et pas simplement de prendre que la partie qui est la plus spectaculaire ou qui peut être la plus médiatique, de valoriser par exemple les gens dans une image négative de délinquance ou de choses comme ça, mais qu'il faut absolument avoir l'autre dimension. C'est plus long à avoir parce que c'est plus facile pour un jeune de dire moi je vole, je fais chier tout le monde, etc. Parce que il va trouver immédiatement un interlocuteur qui va le reconnaître, que de l'entendre parler de lui ou de ses projets d'avenir, quoi. Et ça, c'est tout aussi important d'entendre ça.
Sa ville tranquille et il attend. C'est qu'il est fragile, difficile et pourtant il ouvre ses grands yeux et regarde sa banlieue. Le chômage à son âge. Ne le rend pas heureux. L'horizon de tout qui l'entoure l'asphyxie. Il me découvre tous les jours et l'ennui. Les peines d'enfants. Attends, j'entends mal. Et de l'espace qui dépasse tout.
C'est pas enregistré déjà.
Les banlieues empêchent-les de vieillir. Leur jeunesse se tire. Banlieue, les banlieues, ta crisaille ne m'inspire que l'envie de partir. Ne les laisse pas tomber, ils ont droit d'exister eux aussi. Banlieue, banlieue. De café en café, avec des paumés, il passe son temps. Il se saoule un petit peu. Joue avec le feu, joue aux délinquants. C'est pas qu'il soit méchant. Demandez aux parents. Mettez-vous à sa place. C'est dur de faire face quand on a 17 ans. Et vol de mobilette. On fait la fête sur le moment. La police le guette, ses parents s'inquiètent comme dans un roman. Regarde, c'est ton enfant, c'est le sang de ton sang. C'est toi qui l'as nourri, jeté dans la vigne.
a pas si longtemps. Oh Dieu, ne nous laisse pas vieillir, on a peur. La crise, elle nous inspire que l'envie de partir. Bon Dieu, et bon Dieu, ne nous laisse pas tomber. On a droit d'exister, nous aussi. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu.
Paris, c'est beau.
Ah, j'aimerais bien habiter à Paris. Hein. C'est, ça changerait complètement cette cité. C'est pas pareil.
C'est pas pareil que les banlieues.
C'est pas la même mentalité. Les gens sont pas pareils.
Ouais, et puis les bâtiments, ils sont mieux.
Ouais, on a des beaux bâtiments.
On va dans un hall dans un bâtiment de Paris, il n'y a pas de graves. Les bâtiments, ils sont.
C'est les gens, ils sont raisonnables. Ils sont bien.
C'est pas la honte hein, quand tu dis que tu habites Paris et puis ouais. Quand tu dis que tu habites Montreuil-sous-Bois.
Bah non, ça.
Non, si de toute façon un jour mes parents me disent bon on va déménager, on va à Paris, bon j'y vais, je serais pas contre, de toute façon je veux bien m'y habituer. Mais au Montréal de toute façon et Paris c'est pas du tout la même chose. Paris c'est mieux quoi. Je sais pas, j'ai
non,
déjà
quoi,
été.
Non,
pas ça. C'est mieux quoi. De toute façon quand on va à Paris juste comme ça une heure deux heures on voit déjà la différence. Hein. Que déjà les gens ils sont.
Il y a des choses, des musées, plein de trucs comme ça.
Ouais. Bah ouais, bah si Paris sort était un homme, je l'aurais épousé. C'est vrai, c'est beau Paris.
Ouais, c'est joli. Il y a des choses à voir là-bas.
On connaît pas tout, même en 25 ans.
Au moins là-bas, on s'ennuierait pas. Dans Paris, on s'ennuierait pas.
Tu peux même pas connaître.
Il y aura des choses à voir, tout ça.
T'habites 25 ans à Paris, tu connais même
pas. Dans la journée, t'auras même pas fini de voir.
Il y a beaucoup de choses à visiter à Paris.
Ouais, c'est pas pareil.
Puis il y a plus de choses à faire à Paris en une journée. Tu sais déjà où aller. Pendant que tu peux dire à 2 heures, je vais aller visiter un musée. À 3 heures, je vais aller par-ci. Il y a beaucoup de choses à faire à Paris que dans une cité.
Puis les gens ne sont pas pareils.
Ouais.
Ils sont sympas. Tu leur
ils ont notre mentalité. Quoi.
Faut venir voir Paris parce que c'est une belle ville. Mais tu ne peux pas y vivre éternellement. C'est pas possible. Tu vis à 100 à l'heure. Tu n'as même pas le temps de profiter de la vie, je dirais. Parce que Paris, c'est trop speed. Tu n'as pas le temps de prendre du plaisir. Quand je vais en vacances, je vais au ski, par exemple. Enfin, moi, je suis pas pressé de manger ou de boire ou de sortir. Je prends tout mon temps. Quand je suis à Paris, t'as pas le temps de prendre ton temps. C'est pas possible. Tu dois dire à ma voiture, mes papiers, mon travail. Alors, quand tu vas travailler, je te dis pas, les gens dans le métro, tu vois la gueule qui tire. T'as même plus envie de aller travailler. Ah non, Paris, c'est une belle ville à visiter, mais faut pas y vivre trop longtemps. Parce qu'après, si tu vis trop longtemps de Paris, tu fais partie des meubles. C'est parti des meubles, c'est pas bon.
Finalement, c'est pas mal placé. La cité Le Morillon, on n'est pas trop loin de Paris. Et...
C'est vrai. Que bon, il y a des gens qui préfèrent Paris, donc ça les arrange. Il y a des gens qui adorent Paris. Parce que bon, c'est vrai qu'à Paris, c'est animé le soir. T'as les boîtes de nuit, les jeunes. Il y a des gens qui aiment bien ça, les boîtes de nuit, les fêtes, les soirées bars, les fêtes parisiennes, quoi. Ce qui est vraiment typique Paris. Mais comme si t'as pas envie d'aller à Paris, tu restes à Montreuil et puis t'es un peu isolé de Paris. C'est complètement différent. À Montreuil, c'est calme. À la limite, Montreuil par rapport à Paris, on peut dire que c'est une petite campagne. Une petite campagne, hein. Faut pas non plus exagérer. Hein. Petite campagne, voilà.
Paris, une image très lointaine de leur vie quotidienne pour les jeunes de ce quartier. Mais l'image, c'est aussi la représentation que l'on se fait d'un pays quitté ou visité brièvement et dont on nous parle depuis de nombreuses années. C'est souvent la photo intérieure de l'endroit où l'on rêve d'habiter, non, de vivre.
pas. C'est pas comme. C'est tout à fait une autre vie. Là-bas, c'est la vie tranquille, travail, la maison. Il n'y a pas beaucoup. Ils s'intéressent pas à n'importe quoi, quoi. Ils ont rien. C'est pas qu'on a rien, mais là-bas, c'est pas pareil. Ici, quand je suis arrivée, j'avais trop peur de la vie. C'était très dur pour moi. Parce que là-bas, c'est pas dur du tout de vivre.
Rachida a 26 ans. Moi, je habite depuis 3 ans en France.
Je veux dire, vivre avec les gens et tout, s'adapter et tout.
C'était un petit village en Algérie ou c'était...
Non, une grande ville. J'habitais à Oran, une grande ville. Une grande ville, c'était pas pareil du tout. C'était pas la vie d'ici, quoi. Ben, ici, j'avais trop peur. Je vous dis la vérité. J'ai vraiment souffert, mais pour s'adapter à cette vie. Bon, maintenant, ça va. Mais c'était très dur. Moi, je voulais pas venir ici, mais j'étais obligée, quoi. De venir de suivre mon mari. Là-bas, j'ai jamais eu de problème. J'ai jamais connu un problème. Qu'est-ce que c'est? Quand je suis arrivée ici, c'était le début des problèmes. Maintenant, j'ai appris à lutter déjà. Et puis être patiente. Et puis savoir vivre, quoi. J'avais peur parce que je connaissais pas. C'est normal. N'importe qui à ma place. Peut-être il aura réagi pareil parce que, premièrement, j'avais pas de papier. Deuxièmement, c'était dur. Si j'avais pas de papier, je pourrais pas travailler, je pourrais rien faire pour aider mon mari. Mon mari gagnait 120 000. Il avait un stage, on n'avait pas d'appartement, on n'avait rien. Les beaux-parents, ils n'étaient pas prêts à nous héberger. Alors comment il fallait faire? Il fallait trouver une solution, il fallait lutter pour ça. Et ben, j'ai été repoussée plusieurs fois. Ils me disaient, il faut rentrer dans votre pays et tout, mais je n'étais pas prête à repartir. Parce que moi, quand je suis venue, c'était pas pour repartir, c'est pas pour passer les vacances.
Ouais.
C'est pour rester avec mon mari, c'était tout à fait normal, moi, je trouve.
Ouais. Ouais.
C'est vrai, il y a beaucoup de clandestins, moi, je reconnais, il y a beaucoup de clandestins. Mais moi, j'étais clandestine, c'est vrai. Mais c'était pas pareil que les autres gens, parce qu'il y avait beaucoup de cas comme moi. Mais moi, je trouve que c'est bête quand même, parce que c'était un cercle vicieux. Parce que. Ils nous disent, pour avoir les papiers, il faut avoir l'appartement. Pour avoir l'appartement, il faut avoir les papiers. Pour travailler, c'est ça. C'était 3 ans que je roulais. Et ben, je suis arrivée à m'en sortir parce que vraiment, je reconnais que j'ai lutté, quoi, pour ça, pour avoir ça. Maintenant, ça va. J'ai tout, j'ai mes papiers, j'ai ma maison, enfin mon appartement. Je suis tranquille. C'est ça. C'est parce que tout le monde, même les Français, ils luttent pour vivre. Il y a beaucoup de Français qui n'ont pas de logement. Moi, je mets 6 euros, ça fait que 3 ans. Ça fait que 3 ans que j'ai fait la demande, que j'ai mon appartement.
De toute façon, l'Algérie, c'est que des jeunes. Hein. La base du pays, c'est que des jeunes.
Ouais.
Bon, 20, 30 ans, c'est ça à peu près, la moyenne d'âge. Mais s'ils trouvent le moyen de venir ici, mais je vous dis sincèrement, il ne restera plus personne là-bas.
Mmh.
Ah ouais. C'est trop dur. Bon, ici, on a des aides. Bon, on va aller à la mairie, par exemple. On peut aller au service social, on peut demander des renseignements pour être aidé ou quelque chose si on a des difficultés à la vie. Parce qu'il n'y a pas que des riches hein, sur Terre, hein, des pauvres. Hein. Il y en a des riches, il y en a des moyens, il y en a des pauvres... Bon, à partir de ce moment-là, si on va à la mairie, on demande une aide ou quoi, bon, en général, on refuse pas en général. Comme moi, bon, j'ai demandé mon logement, ça fait à peu près 2 ans. Et je sais qu'il y en a, ça fait 5 ans, 6 ans qu'ils attendent un logement. C'est vrai, c'est incroyable d'attendre tant de temps. En RDA, quand ils faisaient pendant un moment, ils faisaient l'émission, là. Des fois, il y en a, ils attendaient 10 ans, mais c'est presque pareil ici, alors, ou quoi. C'est vrai, il y a la crise du logement, je ne sais pas. Et pourtant, il y en a des logements, j'ai vu. Moi, quand je cherchais un appartement, je vous assure, j'envoyais des appartements de libre, mais incroyable. Bon, déjà, nous, quand on va là-bas, ils nous disent, ouais, vous êtes bien, nous, on n'est pas bien. C'est vrai, c'est ça.
Ouais.
Mais eux aussi, ils ne se rendent pas compte quand même que nous aussi, les immigrants, on a des difficultés en France. Quand même. C'est vrai, on a des difficultés. Un degré moindre, mais on a des difficultés quand même. Quand tu me posais des questions sur la France, je disais quoi? C'est que c'est bien. Ouais, je disais que c'est bien. En fait qu'est-ce qu'on veut, enfin, on fait qu'est-ce qu'on veut. On est plus libre, ouais. Déjà. Déjà, ça, c'est beaucoup, la liberté, déjà. Hein, on n'est pas toujours surveillé, on parle comme on veut. C'est important, ça, ouais. Déjà, non ? Il me parlait de la Tour Eiffel, je dis, elle est comme ça, la Tour Eiffel, c'est un morceau de ferraille, et puis voilà. C'est tout. Il me parlait des Champs-Élysées, je dis, c'est une grande avenue, et puis voilà.
Ouais, il n'y a pas beaucoup de coins qui sont bien comme les gens de voir.
Ah ouais, il y a beaucoup de cités là-bas. Mais là-bas,
les cités, mais
l'appartement que vous avez, c'est à vous. C'est à vous. C'est pas, il n'y a pas d'office d'HLM là-bas. C'est à vous, l'appartement. Déjà, question environnement, déjà, ici c'est mieux que là-bas.
Ah ouais ?
Ah ouais. Déjà dans une cité, vous rentrez dans une cité là-bas, chaque appartement a son antenne de télévision à part. Les antennes qui pendent aux fenêtres et tout.
Ah ouais.
Vous croyez ? Je vous assure, si vous voyez ça, c'est incroyable. Si vous êtes vendeur d'antennes, bien sûr, vous faites de l'or. Hein, faut dire la vérité, hein, de toute façon, hein, faut pas le cacher. Hein. Les gens, quand ils vont, on va pas dire oui, c'est bien, et puis. Hein, c'est vrai, les Européens, quand ils vont là-bas, ils disent ah bah non, c'est pas comme ça qu'on m'a dit, ils sont déçus. Faut dire la vérité, non mm. Hein. Puis déjà, en plus de ça, c'est pas un pays, l'Algérie, c'est pas comme le Maroc ou l'Espagne, pays touristique. Pourtant, il y a des choses à visiter là-bas.
Ouais.
J'assure, il y a
vraiment
des endroits. Il y a vraiment des endroits. Pourtant, je suis né en France et je me sens vraiment pas français, mais je me sens bien quoi ici. Mais franchement, il y a des endroits que j'ai jamais vus ici en France.
Ah ouais.
Pourtant, je me suis promené dans la France, mais franchement, il y a des endroits que j'ai jamais vus. Il y a des endroits, c'est impeccable.
Vous avez été à Chéria ? Il n'est pas trop sucré. S'il y a quelqu'un qui en veut encore du sucre. Et vous, qu'est-ce que vous pensez d'ici ?
Je connais quelques couples là, dans la cité qui sont installés. Moi, jamais de ma vie je ferais ça. Jamais de ma vie. J'aurais déjà une peur immense de faire un enfant. J'aurais une peur immense de laisser mon magnétoscope chez moi. Et puis, moi, je peux pas vivre en entendant le voisin du troisième avec sa télé à fond. Ni même le voisin de palier qui passe l'aspirateur. Je peux pas. Bon, j'ai eu de la chance de vivre dans un pavillon depuis que je suis tout petit. Ben, voilà, je connais ça. J'ai pas envie de retourner dans quelque chose qui est pas mieux. Bon, maintenant, on m'offre une villa au bord de la mer. C'est même plus que je pars, je suis déjà parti.
Ça dépend de tout. Moi, si j'avais le choix de... C'est vrai, je resterais pas en cité, faut dire. Hein. Je resterais pas en cité, parce que bon, tout n'est pas négatif en cité. Hein. Je pense que l'école de la rue, moi, c'est une bonne école. Pas longtemps, mais l'école de la rue, la vie de cité, c'est une bonne école. On apprend beaucoup de choses à se méfier. Parce qu'il faut se méfier des fois des gens, faut pas toujours se méfier, être sur sa garde. Non, faut apprendre à se méfier des gens, à s'habituer aux gens aussi, justement, à ne plus se méfier des gens, comme on fout... Faut toujours prendre garde, quoi. On n'est jamais assez prudent. Maintenant, moi, si je partirais personnellement, je partirais vraiment loin de Paris, quoi. Loin des grandes villes. Moi, je partirais loin des grandes villes. Mais je ne retournerais pas, par exemple, en Algérie, parce que, qui est le pays d'origine de mes parents, ou le pays de mes origines à moi. Non, je ne retournerais pas en Algérie, parce que il y a des problèmes de politique. Il faut voir qu'est-ce qui se passe. Il faut voir s'il y a à manger, parce que tu as envie de manger, tu as envie de, boire, tu as envie de. Qu'il y ait des preuves, des choses qui soient faites du côté culturel. Faut qu'il y ait des bibliothèques, faut qu'il y ait. T'as envie de lire, t'as envie de t'amuser, t'as envie de faire t'as envie d'avoir un loisir. Ce qui en France manque pas. On a tout ce qu'il faut. Si vraiment on a envie de s'intéresser à un loisir, on a, en France, il y a tout. 25 ans, je pense que j'ai donné pas mal de temps à la vie de cité. Non, maintenant, je pourrais que je m'écarte, quoi, un peu. La vie de cité. La campagne, mais du soleil.
Ouais.
Du soleil. Je pense que le soleil, c'est ce qui manque, quoi. Parce que dans une cité, l'été, ça revit. Malgré que c'est une cité, ça revit.
Yao, 28 ans.
Non, c'est vrai, ici, c'est mieux.
Et si t'habitais pas dans la cité, où est-ce que tu voudrais habiter?
Ça m'est jamais venu à l'idée. Où j'irais habiter? Dans une île? Bien sûr. Et une île... C'est à peine s'ils connaissent le mot moderne. Bien quoi, qu'il y a le minimum de la société. C'est-à-dire il faut la poste, il faut l'aéroport, il faut pas de gros quartiers, pas de gros centres comme ils font un peu partout là. Ils rassemblent 50 bâtiments dans un coin puis ils mettent un grand centre commercial en dessous. Pas de trucs comme ça, ça fait des vides fous ça. Des vides fous. Nous, on est quand même pas mal dans la cité, hein.
Je pense pas qu'on, ouais. Qu'on ira ailleurs, on restera là.
Au bled. Ouais. Au bled. Tu retournerais habiter au bled?
Moi? Bah
ouais,
pourquoi ouais. Bah oui. Si j'ai un travail là-bas, bien.
Ouais, j'ai un peu grandi ici, bon, je pense que je resterai ici. Hein.
Un peu.
Ça ne bougerait pas.
Ouais, envie de rester ici.
Bah ouais.
Dans un pavillon.
De toute façon, dans n'importe quelle cité, ce sera la même chose. Hein. Il y aura des problèmes partout.
Oui, mais si tu avais un endroit de rêve, à la limite, où est-ce que tu irais?
Hawaï.
Je ne pas Hawaï.
Moi, de toute façon, il y aurait du soleil.
Tahiti,
le soleil, sur le bord de la plage.
Voilà, tous ensemble, là, ce serait bien.
Tous ensemble,
à Morion ouais. Sur plage.
Voilà. Hawaï, mes amis.
En Amérique.
La cité, c'est vraiment le bas de gamme. Hein.
Bah oui.
De toute façon, dès qu'on sort d'ici, on voit tout de suite la différence.
Ne parler que de l'image ne laissera peut-être que des images. Alors, vivons la cité au quotidien pour nous rendre compte de ce qu'est la dimension humaine de la vie en ces lieux. Demain, une vie de cité. Nuit magnétique. Renaud Dalmar, je vis en cité. Ce soir, image de la cité. Réalisation Christine Robert, Guy Senot, Jean-Marc Aringoli. Bonsoir.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 31 janvier 1990. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.
The great awareness, we've reached the climax. We're together, now we're undone. Won't commit, so we choose to run away. Do we separate? Oh, don't wanna give in, so we both gave up. Can't take it back, it's too late. Somehow feet off the ground. Love is the cloud that keeps raining down. Where are you now when I need you around? I'm on my knees, but it seems we're so we choose to run away. Do we separate? Oh, don't wanna give it, so we both gave up. Can't take it back, it's too late. We reached the climax. I gave my best, it wasn't enough. You kept upset, we argued too much. We made a mess of what it used to be, love. So why do I care? I care at all. So we choose to run away.